Vous allez entendre un reportage territoire sur Radio Eulenspiegel 91.8. Mams, bonjour.
Bonjour.
Donc nous sommes aujourd'hui dans Schoubeck, à Cassel, et tu fais partie d'une troupe qui s'appelle Front Matrosen. C'est une troupe qui est une réplique des soldats allemands en 14-18, précisément l'infirmerie.
Oui, exactement. Alors l'infirmerie pouvait être dans plusieurs corps, suivre justement au niveau des tranchées, on va dire comme ça, ou tout simplement qui suivaient les troupes, de façon à faire les premiers soins.
On s'aperçoit qu'il y a deux magnifiques chiens, dogues allemands, qui sont présents. Ces chiens avaient une utilité pendant ce conflit mondial ?
Oui, alors il n'y a pas que le dogue allemand, il y avait toutes les races de chiens, ça dépendait de leur morphologie, leur caractère, etc. Et chaque chien était dispatché selon, comme je dis, leur morphologie. Si c'était des gros chiens, comme ici, bon, là, des Xios, c'est des gros chiens, alors automatiquement, ces chiens-là, ils étaient entraînés pour justement tirer des charrettes qu'on pouvait transporter des blessés, des cadavres ou tout simplement du matériel médical.
Ouais. Ça, c'était pour ils transportaient sur leur dos les trousses de premiers soins.
Oui, voilà. Alors, il y avait exactement aussi, comme vous dites, des trousses. C'est une sorte de sac à pain qu'on mettait du matériel du genre des pansements ou garrots, etc. Et le chien avait comme pour but tout simplement de faire des allers-retours entre le No Man's Land et l'infirmerie qui se trouvait en deuxième ligne. Et là, on ravitaillait les sacoches justement pour que le médecin évitait de faire des allers-retours et perdre du temps et pouvoir faire les premiers soins. C'était le chien qui avait ce rôle-là, de faire des navettes.
Ces chiens-là aussi transportaient, déroulaient du fil pour les communications.
Oui, alors les chiens un peu plus rapides, par exemple, on leur mettait des bobines de téléphone, des lignes téléphoniques. Et alors le chien allait d'un côté à l'autre de la tranchée, et alors automatiquement ils avaient une ligne de téléphone qui était installée en deux temps, trois mouvements, et c'était le chien qui faisait l'aller-retour dans la tranchée.
Ces chiens, à un moment, sont tombés en désuétude dans l'armée allemande, et il y a eu le fait que les Belges en avaient et les Allemands ont eu l'idée d'en reprendre.
Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'est-à-dire que bien avant la Première Guerre mondiale, les Allemands et les Belges travaillaient déjà dans l'armée avec des chiens. Les Allemands, quand ils sont partis en guerre, n'avaient pas pris leurs chiens. Et là, ils se sont rendus compte que les Belges, ils ont pris leurs chiens, puisque bon, ils avaient déjà l'habitude. Et les Allemands, alors, ont réquisitionné les chiens qu'ils avaient sur leur chemin, quoi. Et quand ils se retrouvaient dans le nord de la France, ils avaient une armée de plus de 2000 chiens qu'ils ont dispatchés dans plusieurs corps armés allemands, que ce soit l'infanterie, l'infirmerie, la cavalerie, etc. Ça, c'était déjà chez les Allemands qui connaissaient déjà autant que les Belges.
Ces chiens, par eux-mêmes, ils sont rattachés à l'armée, ils ont même des plaques d'identité.
Ah oui, ils étaient vraiment considérés comme des soldats, parce qu'un chien qui était perdu pour un soldat, c'est un soldat qui devait porter son matériel, ou tout simplement, une main-d'œuvre, on va dire, beaucoup moins importante. C'était le chien qui aidait, tout comme un soldat.
Il y a d'autres animaux assez impressionnants qui ont été utilisés par l'armée allemande, oui. Et avec un but bien précis.
Oui, alors il y avait les chats. Les chats, ils étaient employés. Bon, aujourd'hui, on connaît ça sur le nom de la ronron-thérapie. Maintenant, un chat qui était dans une tranchée pouvait calmer un peu le soldat qui était en panique, etc. Et un soldat qui avait un chat, quand le chat arrivait à tuer un rat, le soldat avait une prime par l'armée du fait de pouvoir avoir déjà de la nourriture. Parce qu'un rat, c'était considéré comme la viande. Et en plus de ça, un rat qui était tué pour l'armée allemande, c'était une maladie en moins, on va dire comme ça. Et là, l'armée allemande donnait une petite prime aux propriétaires qui avaient des chats. Il y avait également des bovins, des chevaux, etc. Et chez les Allemands, ils avaient une particularité, c'était les éléphants. Ils ont retrouvé.
Quel était le but d'avoir des éléphants ?
Alors, les éléphants, ils ont retrouvé des photos au niveau de Saint-Quentin. Et les éléphants qui étaient à ce niveau-là, il y avait une scierie. Et les éléphants tiraient les rondins de bois pour pouvoir se procurer du bois pour les Allemands qui pouvaient faire du matériel ou peut-être du chauffage pour chauffer les campements. Et ils ont retrouvé également des documentations sur les Hautes-Alpes de façon que les éléphants tiraient les gros canons.
Comme la Grosse Bertha, par exemple.
La Grosse Bertha, voilà. Ils ont retrouvé des photos que des éléphants tiraient la Grosse Bertha dans les Hautes-Alpes.
On peut imaginer la vie dans ces tranchées qui devait être plus ou moins atroce.
Ah oui, non, mais c'était invivable, on va dire comme ça. Nous, on essaye de reconditionner un peu vraiment la vie qu'ils avaient, mais c'est impossible à faire croire ou faire imaginer ce que les soldats vivaient à l'époque. C'était l'enfer.
C'était horrible.
Ouais, c'était l'enfer, oui. Ouais.
Il y a eu des mutineries aussi, comme chez les Français ?
Des
mutineries ?
Non, je ne crois pas ça. Je ne suis pas vraiment au courant, mais mutinerie, probablement, oui. L'être humain reste un être humain.
Ouais. Comment vous faites pour retrouver ces beaux costumes qui ont une légitimité et qui sont très bien faits ?
Déjà, c'est une passion. Deuxièmement, j'ai la chance que j'ai une association que tous mes membres sont hyper, hyper passionnés. Et alors, automatiquement, c'est un échange, un partage, beaucoup de communication entre nous. Et de ce fait, on a des informations, on a beaucoup de documentation qu'on recherche en commun, on va dire comme ça. Ouais.
Il est arrivé parfois, cette section d'infirmerie, d'effectuer des opérations sur place dans les tranchées ?
Nous, justement, la différence de l'infirmerie et les hôpitaux, c'est que les infirmeries n'ont aucun instrument de chirurgie, d'amputation. On le voit bien ici dans notre infirmerie. C'est vraiment que pour les premiers soins, c'est-à-dire des pinces à clamper, des seringues, des produits vraiment... de l'éther, de l'héroïne, morphine, etc., de mercure. C'était vraiment, vraiment que pour les premiers soins.
Front Matrosen, par eux-mêmes, l'association, vous recherchez vraiment d'être bien habillé, de montrer quelque chose de correct.
Oui. Alors nous, on a une petite devise, c'est le petit détail qui tue, qui fait toute la différence. Ça, c'est vraiment... on recherche vraiment le petit détail pour être à la perfection.
Ouais. Il y a d'autres troupes, on va dire, qui effectuent le même travail que vous ?
Oui, moi après, chez les Allemands, c'est très rare, on va dire comme ça. Ceux qui veulent représenter l'Allemagne représentent plutôt des hôpitaux. Très peu d'infirmeries allemandes, je ne connais pas vraiment. Mais chez les Français, c'est très commun. Pour trouver ça sur les campements, des infirmeries, des hôpitaux français, ça c'est très commun. Mais allemand, pas vraiment.
Préciser aussi bien qu'il y avait des combattants français, qu'il y avait des combattants allemands, que chaque mort c'est une tristesse, de tous les côtés qu'il soit. On parle des fois de trêve de Noël, c'est des choses qui ont existé véritablement
ou c'est un
mythe ?
Non, c'est réellement, il n'y a pas que la trêve de Noël qui a été prouvée. En vrai, la Première Guerre mondiale, les trois quarts des soldats, c'était des paysans, etc., des gens qui ne savaient pas pourquoi ils étaient sur le champ de bataille, et ils se trouvaient dans des endroits où ils n'avaient jamais entendu parler, ils ne connaissaient pas. Et pour eux, la guerre, c'était une obligation et ils ne comprenaient pas le comment du pourquoi. C'est-à-dire qu'il y avait également, je ne vais pas dire des trêves, mais de la solidarité au niveau des infirmeries, c'est-à-dire que à partir du moment où les infirmeries, tout ça ne pouvait plus se déplacer, ils ont été traversés par l'ennemi, on va dire comme ça, et par exemple les infirmières allemandes soignaient les soldats français, et ça a été comme ça dans les deux sens.
C'est des serments d'Hippocrate.
Oui, pas spécialement, mais c'est justement l'humanité qui était là avant tout, c'était la solidarité, tout simplement. Ouais.
Dans l'association, on essaie de faire aussi un devoir de mémoire, puisque ces temps sont quand même assez âgés.
Oui. Nous, ce qu'on essaye, parce que c'est pas évident de porter l'uniforme allemand, mais on veut essayer de comprendre que l'Allemagne de 14 n'était pas l'Allemagne de 40. Et alors, la commémoration des soldats, on fait des commémorations pour les soldats français, malgré qu'on porte l'uniforme allemand, mais il faut faire comprendre que il n'y avait pas que des méchants en 14 non plus. Quoi.
Dans les belligérants, il y a tout.
Exactement.
C'était toujours des enfants d'une maman.
Oui, exactement. Oui, c'est des enfants, des papas, des frères, des sœurs. Des sœurs, oui, parce que il y avait des femmes aussi dans la Première Guerre mondiale. On essaye vraiment de commémorer. Et comme ici, il n'y a que quelques années qu'on commémore la mémoire des animaux. Ouais. Et ça, on essaye aussi de le refaire ressentir au niveau des gens et... de notre présence quand il y a des commémorations.
Front Matrosen, ça signifie quelque chose, je sais pas.
Oui, Front Matrosen, c'est les marins du front. Alors il faut se dire qu'il y a eu des marins qui ont été débarqués au niveau de Ostende, et ces marins ont gardé les côtes quelques temps au niveau des frontières, sont descendus jusque presque Dunkerque, je crois, un petit peu plus haut, et après ils ont été mis dans les tranchées. Et là, ils ont aidé alors l'infanterie, etc. C'est pour ça que nous, on représente les marins du front. C'est ceux qui ont été mis dans les tranchées.
Ça a été difficile de réunir toutes les armes que vous avez.
Difficile.
Je vois qu'il y a une mitrailleuse MG, si je ne m'abuse.
Mais du fait qu'on est passionné, chacun a son petit truc, plus précis. Son petit filon. Et alors, automatiquement, on fait des recherches, on fait des découvertes, et on achète, on reçoit beaucoup de dons également. Et de ce fait, on veut être à perfection et avoir le meilleur matériel pour montrer aux gens comment c'était à l'époque.
Je crois que c'est opération réussite.
J'espère.
Moi, j'en suis certain.
C'est gentil, on essaye de faire au mieux. Puis bon, ça reste une passion et on voit le regard des gens, les gens, comment ils sont passionnés. Alors nous, ça nous fait vraiment plaisir. Quoi.
Nos auditeurs qui voudraient vous contacter, vous rencontrer, il y a un contact, peut-être
oui,
une page Facebook.
Oui, on a une page Facebook, Instagram, etc. Et le nom, c'est, si vous tapez Front Matrosen, les marins du front, normalement vous trouverez. Et là, notre logo, elle est assez particulière, c'est justement la tête de notre ancienne mascotte, on va dire comme ça, c'est la tête d'un chien. Avec le drapeau allemand, c'est assez spécifique justement de notre association, parce que le chien qu'on avait avant, qui c'était Rolf, les gens nous connaissaient plus parce qu'on avait Rolf que nous-mêmes avec notre matériel. Quoi.
Et là maintenant c'est Vlad.
Maintenant c'est Vlad, oui. Bon, il faut toujours une petite mascotte, mais bon, Rolf il reste quand même
dans votre cœur.
Pas que dans le mien. Hein. Franchement, beaucoup de gens nous connaissent rien que le nom de Rolf avec notre ancienne mascotte. Quoi.
Mams, un grand merci pour ce beau témoignage.
C'est gentil, merci à vous.
Puis on se dit à bientôt.
À bientôt, oui, merci beaucoup.
Hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keert om met een detail hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar in de kop, maar juist om ons te amuseren. Hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keert om het in dit hij al hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. Graf van duizend soldaten, altijd iemands vader, altijd iemands kind, duizend en duizend soldaten, en nog duizend soldaten.